Europe 1. Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h14. Votre invité Julien à présent, votre invité est politologue et chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po.
Bonjour Bruno Cotterêts.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin pour analyser avec nous les résultats de ce second tour. Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, a donc été réélu hier soir président de la République avec 58,54% des voix. C'est 8 points de moins qu'il y a 5 ans face à la même adversaire, Marine Le Pen. C'est le prix du bilan, le prix à payer quand on est président sortant, ou c'est avant tout l'illustration de la progression de l'extrême droite en France?
C'est les deux, évidemment. Emmanuel Macron a perdu presque autant de voix que Marine Le Pen en a gagné d'une élection à l'autre. Il a obtenu une victoire assez nette quand même hier. 58%, on peut appeler ça une victoire extrêmement nette, extrêmement franche d'Emmanuel Macron. En revanche, on voit bien tout de suite les problématiques de cette victoire d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, le Rassemblement National n'a jamais été aussi élevé. On regarde la géographie électorale, on voit que la géographie électorale très forte pour Marine Le Pen dans le nord-est, toute la bande nord-est de la France, le sud-est comme traditionnellement le Rassemblement National.
Et les campagnes.
Mais ça a essaimé dans de très nombreux endroits, dans de très nombreux départements. Il y a de très nombreuses communes où Marine Le Pen est arrivée en tête également hier. Donc on voit un pays...
Les dom-toms aussi.
Les dom-toms, voilà, les Outre-mer. On voit que le pays est très clivé au fond à l'issue de ce deuxième tour. Il suffit de regarder aussi la sociologie des différents électorats, des deux électorats, pour voir aussi le contraste extrêmement saisissant entre les deux France qui se sont hier réunis sur une journée électorale. Mais demain matin, dès aujourd'hui, il va falloir essayer de recoudre tout ça parce que la tâche va être difficile pour le nouveau président.
C'est une autre histoire qui commence. Est-ce que vous diriez, au regard de son adversaire, qu'Emmanuel Macron est ce matin un président mal réélu, voire le plus mal élu de la Ve République, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon?
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le problème d'une certaine manière. D'abord, bien élu, mal élu, tout dépend des éléments qu'on met sur la table, tout dépend des critères. Au fond, si on prenait comme critère la marge de victoire, c'est une très nette victoire d'Emmanuel Macron. En 1974, le président Giscard d'Estaing est élu avec une marge extrêmement serrée. On aurait pu appeler ça mal élu d'une certaine manière. Je pense que le vrai problème, et de ce point de vue-là, ça nous dira quelque chose sur bien élu ou mal élu, c'est qu'est-ce que le président Macron II va faire de son nouveau mandat. Il a promis tout un tas de choses pendant la campagne de l'entre-deux-tours, en particulier, d'ailleurs dans son discours d'hier soir, la même chose, en particulier de tenir compte du résultat des élections premier tour, de ne plus gouverner de la même manière.
Donc un tournant à gauche.
On peut imaginer un tournant entre guillemets à gauche. En tout cas, il a beaucoup mis le thème de l'écologie en avant. Comment tout ça sera suivi d'effet extrêmement concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « je vais changer de méthode de gouvernement » Et au fond, c'est ça qui nous dira s'il a été bien élu ou mal élu d'ici quelques semaines. N'oublions pas non plus qu'il faut quand même l'étape des élections législatives pour avoir la fin de l'histoire.
Est-ce que vous le croyez capable de changer une méthode?
Alors quand on voit le style d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017, c'est vrai qu'on a vu un Emmanuel Macron pendant 5 ans qui n'a cessé d'affirmer très fortement à la fois son style présidentiel, son style de leadership avec une verticalité dont on se rappelle. Emmanuel Macron est tout sauf quelqu'un dont on peut imaginer qu'il ait une interprétation faible du rôle de président de la République.
Il n'a jamais eu autant de pouvoir, là.
Voilà, il a beaucoup de pouvoir. De toute façon, les pouvoirs du président de la Ve République, il a été réélu. Ils sont peu nombreux ceux qui ont été réélus. François Mitterrand, Jacques Chirac, mais c'était dans des situations de cohabitation. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron sort extrêmement fort quand même de cette élection. Alors, quand il dit qu'il a changé, on peut lui donner acte de ça, de la sincérité de son propos. Mais encore une fois, concrètement, comment ça va s'incarner de dire « j'ai changé de méthode de gouvernement ». Est-ce que ça veut dire des conférences citoyennes, des grands débats pour tous les sujets ou pour certains sujets sur lesquels, avec quelle temporalité, les Français aussi, s'ils votent pour choisir un exécutif, c'est pas non plus qu'on leur explique que les réformes arriveront dans 2 ans, dans 3 ans, une fois qu'on aura délibéré. Donc là, voilà, tout un tas de problèmes extrêmement concrets dont il doit nous parler très vite.
On a peut-être une première indication avec la manière dont a été mené le débat du second tour. Son entourage nous disait attendez, vous allez voir un président qui ne sera pas arrogant, et au final on a vu peut-être que ça.
C'est vrai que dans la posture générale du président Macron pendant le débat de l'entre-deux-tours, c'est vrai que la posture, le langage corporel, ce qu'on appelle le langage corporel, c'est vrai qu'on voyait un Emmanuel Macron qui était d'abord très sûr de lui, comme s'il avait déjà intégré qu'il avait gagné. Marine Le Pen, au contraire, comme si elle avait accepté sa défaite déjà d'une certaine manière. Emmanuel Macron qui avait multiplié les attitudes corporelles qui renvoyaient une image effectivement un peu de condescendance par rapport à Marine Le Pen.
En tout cas, quand on voit le taux d'abstention hier, plus d'un électeur sur quatre ne s'est pas rendu aux urnes alors que Marine Le Pen était au second tour, sans compter les nombreux votes blancs et nuls. On se dit que notre démocratie est malade, non ?
C'est clair que le taux d'abstention est très élevé. Quand on cumule, comme vous le dites, effectivement, abstention, vote blanc, vote nul.
16 millions d'électeurs.
Ouais, c'est un gros paquet d'électeurs. Le corps électoral français, c'est 48 millions d'électeurs. 16 millions qui soit se sont abstenus, soit ne se sont pas retrouvés dans l'offre électorale du deuxième tour, en disant c'est la même affiche qu'en 2017. On a aussi beaucoup d'électeurs, on pense en particulier aux électeurs qui étaient issus de la gauche, qui hier ont un sentiment de pas du tout s'y retrouver. Certains ont voté pour Emmanuel Macron. On dispose d'enquêtes qui nous montrent que du côté des électorats de Jean-Luc Mélenchon, d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, ça a quand même pas mal voté Macron hier. Mais c'est un vote Macron, au fond, très sans espoir, avec l'idée qu'on a voté, mais c'était plus par défaut pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut politiquement construire, à la fois comme gouvernement, comme direction de politique publique? Pour Emmanuel Macron, c'est pas facile.
Marine Le Pen avait recueilli 34% des voix au second tour en 2017. Là, son score est de près de 42%. Donc, on peut supposer que si elle poursuit sur ce rythme, dans 5 ans, elle entre à l'Élysée, non ?
Oui, si on faisait une simple projection linéaire et qu'on reprenait tout l'historique des scores à la fois de Marine Le Pen ou de son père à l'élection présidentielle, c'est vrai qu'on verrait dès 1988, Jean-Marie Le Pen est à 14,5%, 95, il est à 15%, 2002, il se qualifie au deuxième tour. Il n'y a qu'en 2007, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, que le Rassemblement National, le Front National de Jean-Marie Le Pen est ramené à 10%. Mais dès 2012, la première candidature de Marine Le Pen, on voit que ça progresse en 2017, ça progresse en 2022. Donc si on faisait une sorte de projection linéaire, ça la conduirait à l'Élysée, effectivement, en 2027.
Mais c'est une autre histoire. Nécessaire, après trois échecs.
C'est vrai que l'élection présidentielle de la Ve République, c'est une élection où l'incarnation, l'étoffe, avoir l'étoffe de président de la République est très important. Mais vous savez, il y a deux dimensions dans cette élection présidentielle. Il y a la dimension de leadership vertical, avoir l'étoffe du héros. On va dire. De ce point de vue-là, Marine Le Pen a toujours été, en termes d'image, un peu dominée par Emmanuel Macron. Mais il y a la dimension horizontale, le sentiment de proximité, le sentiment de comprendre les problèmes des Français de tous les jours, le sentiment d'avoir des solutions concrètes à offrir. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Marine Le Pen, elle, en revanche, a toujours bénéficié de davantage de crédit qu'Emmanuel Macron. Donc c'est ces deux dimensions qu'il faut arriver à combiner. Emmanuel Macron, la dimension verticale, les Français lui ont toujours accordé. Il lui reste à prouver, conformément à toutes les annonces qu'il a faites, que sur l'horizontale, il a changé.
Bon, maintenant que l'élection présidentielle, Bruno Cotterêts, est terminée, place désormais aux législatives. C'est habituellement une promenade de santé, ou presque, pour le président fraîchement élu, en tout cas dans la Ve République. Sauf que là, elles sont loin, ces législatives. Premier tour le 12 juin, c'est dans près de 2 mois. Est-ce qu'il y a un risque, à vos yeux, qu'Emmanuel Macron n'obtienne pas la majorité à l'Assemblée, d'autant que sa campagne, on l'a dit, n'a pas soulevé les foules ?
Pour le moment, je ne crois pas à un scénario qui sera un scénario à l'issue duquel, au terme des élections législatives, Emmanuel Macron serait obligé de cohabiter. La cohabitation, c'est quand on a une majorité de députés qui est opposée au président de la République. La vraie question pour Emmanuel Macron, ça va être majorité relative ou majorité absolue, comme en 2017. Et avec qui ? Si on a le périmètre de la majorité présidentielle, il y a qui ? Dans ce périmètre, il y aura le MoDem, évidemment. Il y aura le parti d'Édouard Philippe,
Horizon,
bien évidemment. Il y aura Agir, bien évidemment. Est-ce que ça va faire une majorité absolue ? Ou si ça ne fait pas une majorité absolue, est-ce qu'Emmanuel Macron aura besoin, eh bien, à ce moment-là, d'une véritable entente sous la forme presque d'une coalition, par exemple avec les Républicains ?
Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « Élisez-moi, Premier ministre, on peut, nous, la gauche, si on s'unit me placer à Matignon », est-ce que ça vous paraît plausible ?
D'abord, c'est une formule qui est intéressante. Évidemment, il faut rappeler que c'est le président de la République
qui choisit.
Nomme le Premier ministre, qui le choisit. Et Jean-Luc Mélenchon a utilisé cette expression justement pour en appeler à l'électorat de gauche en disant « Mais au fond, si vous nous donnez une majorité, je serai nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ». Bon, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, on va dire, de cartel électoral, c'est-à-dire faire une coalition, faire une coalition au niveau des circonscriptions entre les différentes formations de la gauche pour envoyer un message d'unité aux électeurs de gauche. Pourquoi pas ? Mais il y a l'autre dimension qui est, est-ce qu'il y a suffisamment aussi de convergence sur leur programme ? Si jamais ils gagnaient finalement cette coalition, est-ce qu'ils sont prêts à gouverner ensemble sur des dimensions de politique économique, de politique européenne, de réforme institutionnelle, sur lesquelles il y a quand même tout un tas de nuances, on va dire les choses comme ça, entre les différentes formations politiques de la gauche.
Il eût peut-être été plus productif qu'il se pose toutes ces questions avant la présidentielle, non ?
Ah, c'est sûr qu'une coalition, ou on va dire une sorte de projet commun entre des formations politiques, ça prend du temps. C'est pas seulement que ça prend du temps pour le fabriquer, ça prend du temps pour que ça soit incarné, pour que les électeurs y croient, pour qu'ils ressentent qu'il y a effectivement une histoire commune et qu'il y a suffisamment de cohérence pour un projet de gouvernement.
Bruno Cotterêts, vu l'état dans lequel est la classe politique, si l'on met de côté la majorité, est-ce que la contestation à Emmanuel Macron va surtout s'illustrer dans les 5 ans qui viennent dans la rue ?
Éventuellement, on a vu effectivement pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron à quel point la contestation de son projet avait connu un paroxysme au moment de la crise des Gilets jaunes.
C'est ce qui est annoncé.
Tel est bien l'objectif sans doute du chef de l'État lorsqu'il en appelle à l'unité nationale, à gouverner différemment, c'est de ne pas revenir vers un scénario de type crise des Gilets jaunes. On a deux dimensions dans la crise des Gilets jaunes. On a tout ce qui est l'injustice sociale, le pouvoir d'achat, mais aussi la crise démocratique. Emmanuel Macron a un enjeu considérable. Dès 2017, il a annoncé que rien n'était plus essentiel à ses yeux que réformer la politique en France, le système démocratique. Là, il ne peut plus reculer. Il y a vraiment un enjeu considérable. Donc, si
ça
veut
dire
éviter...
quoi ? Ça veut dire une dose de proportionnelle aux législatives, par exemple ?
Oui, ça veut dire évidemment la question de la proportionnelle. On verra, parce que vous savez, la proportionnelle, c'est un peu un slogan, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? On peut avoir une dose de proportionnelle et avoir un système qui continue d'être extrêmement majoritaire. Il n'y a peut-être pas que la proportionnelle, il y a aussi comment concrètement faire rentrer le citoyen davantage dans la production des politiques publiques. Une institution comme le Conseil économique et social environnemental à cet objectif très fortement, c'est à véritablement faire re-rentrer le citoyen dans la production de la loi et dans les institutions. Bel objectif, par contre, il faut le mettre en œuvre, c'est compliqué.
Eh bien, ce sera l'objet de ce quinquennat qui s'ouvre à présent. Merci beaucoup Bruno Cotterêts, politologue et chercheur au CEVIPOF, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.